Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel, il est 13h30 ici à Paris. Et dans une demi-heure, ce sera l'heure de votre journal, Alban Le Prince. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Eh bien écoutez, c'est l'actualité. On va évidemment revenir sur cette série d'explosions au Liban. Puisqu'après les beepers mardi, hier, ce sont les talkie-walkie du Hezbollah qui ont explosé. Alors qui est derrière cette opération? Le New York Times fait des révélations. Le Canada également qui va resserrer ses règles d'immigration. Après avoir tenté d'attirer des travailleurs venus du monde entier, de la main-d'œuvre, eh bien victime de son succès, le pays annonce une nouvelle réduction du nombre de permis d'études internationaux et le durcissement des conditions d'obtention de permis de travail temporaire. Et puis cette question en France brûlante, va-t-on enfin voir une fumée blanche sortir de Matignon ce soir? On se pose la question. Hein. Dernière journée de consultation pour Michel Barnier, le Premier ministre français.
À tout à l'heure, on vous retrouve dans un peu moins d'une demi-heure maintenant.
RFI Midi.
D'ici là, nous allons parler de l'actualité en Europe, des inondations en Pologne, du plan pour la victoire de Volodymyr Zelensky et puis de la peur des médecins étrangers dans la région allemande de Thuringe après la victoire de l'extrême droite aux dernières élections régionales au début du mois.
RFI, l'Europe à midi, Anne Cantner.
La présidente de la Commission européenne au chevet des pays touchés par la tempête Boris. Elle sera tout à l'heure dans l'ouest de la Pologne pour rencontrer tous les dirigeants de la région, de Pologne donc, mais aussi d'Autriche, de République tchèque, de Roumanie, de Slovaquie et de Hongrie. Les très fortes pluies et les inondations qu'elles ont provoquées ces derniers jours ont causé la mort de 22 personnes, fait de très importants dégâts matériels. Et puis, des milliers de personnes ont aussi dû être évacuées dans le sud-ouest de la Pologne notamment. Leur sort a beaucoup ému le pays. Les cagnottes, les collectes pour les sinistrés se multiplient partout en Pologne depuis quelques jours. C'est ce qu'a constaté notre correspondant Adrien Sarla à Varsovie.
Des boîtes de thon, de sardines ou de pâté, les employés du centre de redistribution d'eau de Varsovie ont abandonné leur bureau. Ils collectent, trient et emballent les denrées que les Varsoviens sont venus leur apporter hier après-midi.
Les gens sont très solidaires et très actifs dans l'aide. Il arrive qu'il y ait même tellement de voitures qui font la queue pour donner qu'on n'a même pas le temps de tout prendre.
Depuis dimanche, 17h, le point de collecte est ouvert 24h sur 24 et a déjà rempli 4 camions et 4 vannes, direction le sud du pays. Ces derniers jours, les collectes de ce genre ont fleuri un peu partout en Pologne et sur les réseaux sociaux pour rassembler des bouteilles d'eau, des conserves, des produits d'hygiène ou encore des batteries portables.
C'est pour les animaux? Très bien, on s'en occupe.
Magda a fait un premier don hier. La voilà revenue avec 2 cartons de croquettes pour les chiens des sinistrés.
Pour nous, c'était un réflexe d'aider ces gens à reconstruire leur ville, leur maison, leur appartement. Ça va leur demander beaucoup de force, de travail et d'argent.
Le gouvernement polonais a promis 234 millions d'euros aux sinistrés et a soumis hier une demande pour recevoir une aide du Fonds de solidarité européen. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Voilà, reportage de notre correspondant. L'émoi est aussi très visible dans la presse que vous avez lue pour nous, Léonard Vincent. Tous les journaux polonais titrent sur ces inondations et sur les questions aussi qui se posent face à l'ampleur des dégâts.
Oui, Anne, la Pologne a été durement touchée par la montée des eaux, on l'a entendu, et la situation là-bas n'est pas encore stabilisée. Cela dit, on s'interroge déjà dans la presse sur ce qui s'est passé exactement. Le quotidien Wyborcza, par exemple, interrogeait un psychologue pour savoir pourquoi, par quel mécanisme connu, de nombreux habitants ont attendu la dernière minute pour évacuer leur maison. Et en page intérieure, on cherche aussi des explications plus pragmatiques et plus politiques aussi. Le Wyborcza donne ainsi la parole à des victimes des inondations qui pointent l'abandon dans lequel les infrastructures polonaises ont été laissées, le rôle de la déforestation et l'obstination à construire en zone inondable. Ce dernier point est abordé sous le titre « Nous n'apprenons rien de nos erreurs », tandis que le quotidien Nasz Dziennik publie pour sa part un éditorial critique déplorant que le gouvernement Tusk n'avait pas pris au sérieux les mises en garde de la Commission européenne. Cela dit, la situation continue à inquiéter aujourd'hui même, notamment à Wrocław, dans l'ouest du pays, comme le détaille le quotidien Rzeczpospolita, pour qui la situation y est encore très inquiétante alors que les eaux montent toujours.
Et puis un autre sujet trouve un écho dans la presse polonaise, c'est le flot de désinformation qui accable le pays en cette période de crise.
Oui, dans le quotidien Dziennik, la police met en garde contre les intox sur Internet, on est habitué. Et même le Premier ministre Donald Tusk est cité, montant au créneau pour dénoncer le caractère professionnels des semeurs de panique, comme cet homme en uniforme qui aurait fait le tour de plusieurs villages inondés pour annoncer que les digues allaient s'effondrer.
En Hongrie, aussi, pays touché par ces inondations, c'est plutôt la communication du gouvernement qui est mise en avant.
Oui, étant donné l'état de la presse hongroise, c'est le président Viktor Orbán qu'on retrouve à la une de quasiment tous les journaux, avec des annonces rassurantes, selon lesquelles le début de la décrue serait attendu samedi soir et que certains axes le long du Danube pourraient être rouverts très prochainement, selon le Magyar Nemzet. Mais dans le quotidien Népszava, on donne quand même la parole aux habitants de Budapest et aux riverains du Danube qui, avec des soldats, s'activent encore à l'heure où on parle à monter des murs de sacs de sable en prévision de la montée continue du fleuve. Ce qui s'est passé jusqu'à présent n'est qu'un avant-goût, estime par exemple un retraité de la ville de Léanifalu.
Voilà, des mesures mises en place. Le Premier ministre hongrois qui rassure, il devrait échanger d'ailleurs avec la présidente de la Commission européenne aujourd'hui. Je vous le rappelle, elle sera en Pologne. Et demain, Ursula von der Leyen se rendra à Kiev alors que le président ukrainien a finalisé ce qu'il appelle son plan de victoire.
RFI, l'Europe à midi.
Il est prêt, ce plan, il sera présenté à Joe Biden dans quelques jours. Et Volodymyr Zelensky précise que la chose la plus importante est désormais la détermination pour le mettre en œuvre. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Cela fait plusieurs semaines que le président ukrainien évoque ce fameux plan pour la victoire. Est-ce qu'on sait précisément de quoi il s'agit ?
Eh bien, précisément, non. Car pour l'instant, Volodymyr Zelensky est resté très vague sur le contenu de ce plan pour la victoire. On en connaît simplement l'objectif, vaincre la Russie sans remettre en cause l'intégrité territoriale ukrainienne et garantir la sécurité de l'Ukraine sur le long terme. On sait également que ce plan repose sur 5 points, l'un post-victoire et les 4 autres devant y mener. Dans un entretien donné à CNN il y a quelques jours, Volodymyr Zelensky a donné quelques détails, mais vous allez l'entendre, cela reste très imprécis.
It's about security. It's about geopolitical...
Il s'agit de la sécurité de l'Ukraine. Il s'agit de la place géopolitique de l'Ukraine. Il s'agit du soutien militaire qui nous est fourni et que nous devons être libres d'utiliser. Il s'agit du soutien économique qui nous est fourni.
Il y a donc un volet économique, un volet militaire, avec notamment la possibilité de frapper en profondeur avec des armes occidentales le territoire russe, et un volet géopolitique qui n'est pas précisé, mais qui est sans doute l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Enfin, dans une autre déclaration, Volodymyr Zelensky a expliqué que l'incursion ukrainienne en territoire russe dans la région de Koursk faisait partie de ce plan pour la victoire, qu'il en était même la première étape, avec ce double objectif de créer une zone tampon entre les deux pays et aussi d'avoir un moyen de pression sur la Russie pour la forcer à se retirer du territoire ukrainien.
Tous ces points donc seront présentés à Joe Biden dans le courant du mois de septembre, mais aussi aux deux candidats à la Maison-Blanche.
Oui, officiellement, aucune date n'a été donnée, mais Volodymyr Zelensky doit se rendre à New York la semaine prochaine pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Et selon toute vraisemblance, c'est à ce moment-là qu'il présentera son plan à Joe Biden. Il a dit que ce plan devait être validé par les États-Unis et qu'il aurait besoin du soutien américain pour le mettre en œuvre. C'est très clairement un exercice de pression diplomatique qui est mis en œuvre par l'Ukraine pour obtenir de nouvelles garanties sur le plan militaire, économique, diplomatique, et cela avant la fin du mandat de Joe Biden. C'est tellement explicite que le président ukrainien va aussi présenter son plan, vous l'avez dit, à Kamala Harris et à Donald Trump. Et ça, c'est très important car le candidat républicain, le milliardaire Donald Trump, s'est engagé à mettre un terme à la guerre en 24 heures, ce qui aujourd'hui ne peut être fait qu'en obligeant l'Ukraine à céder le Donbass à la Russie, ce que Kiev refuse catégoriquement.
Alors, il y a ce contexte électoral aux États-Unis et puis il y a aussi le projet d'une nouvelle conférence de paix qui serait organisée au mois de novembre.
Et cette fois, c'est un autre plan que Volodymyr Zelensky mettra en avant. Celui-là, on connaît beaucoup mieux. Son plan de paix en 10 points présenté à la fin de l'année 2022. Un plan qui, on y revient, suppose le retrait de toutes les troupes russes du territoire ukrainien. Seul préalable possible pour Kiev à une éventuelle cessation des hostilités.
Et dans ce contexte, l'armée russe, elle, revendique ce matin la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine, une de plus. Les forces russes gagnent du terrain face à une armée ukrainienne démunie qui réclame toujours plus de matériel militaire. L'Allemagne, après avoir annoncé une baisse considérable de son soutien, dit ce matin qu'elle va mettre à disposition une enveloppe de 400 millions d'euros pour fournir justement des équipements militaires à l'Ukraine. L'Allemagne, où la montée en puissance de l'extrême droite inquiète, et notamment en Thuringe. L'AfD y est arrivée en tête pour la première fois lors d'une élection régionale au début du mois. Les médecins étrangers, notamment, redoutent les conséquences de cette victoire. Certains ont déjà décidé de partir. Et ceux qui restent sont pris entre la peur face à la flambée xénophobe et l'impossibilité pour le système de fonctionner sans eux. Reportage de Delphine Nerbollier à Erfurt.
Samer Matar est un médecin syrien. Il est arrivé en Allemagne il y a 10 ans déjà. Et depuis 2021, il travaille en tant que cardiologue dans la ville saxonne de Leipzig. Sa ville de cœur, comme il le dit. Et pourtant, il envisage de la quitter. En cause, les 30% obtenus il y a 3 semaines par l'extrême droite dans cette région.
Je suis en train de changer de poste pour vivre dans une région où l'extrême droite n'est pas aussi forte. En Saxe, l'AfD a obtenu 30% des suffrages. Et ça va encore augmenter. Je n'ose pas imaginer ma vie ici sur le long terme.
Craintif quant à l'avenir, ce cardiologue reconnaît ne pas être victime de racisme dans son activité professionnelle. Les médecins bénéficient d'un certain respect de la part de la population, mais cela pourrait changer selon lui.
Je n'ai jamais été victime de xénophobie ou autre, non. Les patients sont surtout reconnaissants d'être pris en charge, quelles que soient les origines des soignants. Je pense que si le racisme devait s'étendre, les médecins seraient les derniers concernés. En même temps, ils sont très sensibles à ce genre de choses et sont libres de leurs mouvements. Ils peuvent partir dans l'ouest du pays, en Suisse, dans les pays du Golfe, en Grande-Bretagne, en France par exemple. Le monde leur est ouvert pour d'autres expériences.
La perspective de départ massif pourrait s'avérer dramatique pour des régions comme la Saxe et la Thuringe, situées dans l'est de l'Allemagne, où le manque de soignants est criant et où le système de santé s'effondrerait sans le personnel d'origine étrangère. À l'heure actuelle, en Saxe, un médecin hospitalier sur 6 est étranger et 1 sur 4 dans la Thuringe voisine. En Thuringe, justement, Christina Schuck s'interroge elle aussi sur son avenir. Cette ophtalmologue de 29 ans a fui l'Ukraine il y a 2 ans et tente de faire reconnaître son diplôme dans la ville de Iéna où elle vit avec sa mère et son fils. Y restera-t-elle ? La question se pose.
Je veux commencer ma carrière ici car mon métier me manque. Mais est-ce que je vais rester en Thuringe ? On verra. Pour l'instant, oui, je suis contente de la manière dont j'avance. Mais si la situation politique devait déraper, il se peut que je choisisse une autre région ou un autre pays.
Ce qui gêne Christina Schuck, c'est la montée des extrêmes et le soutien assez fort d'une partie de la population locale envers la Russie. En Thuringe, 2 partis politiques militant pour la fin de l'aide militaire à l'Ukraine et pour la fin des sanctions envers Moscou ont dépassé les 46% des suffrages le 1er septembre dernier. Cette ophtalmologue ukrainienne tente de ne pas trop y penser.
Mes collègues ont souvent des positions différentes de la mienne sur les livraisons d'armes. Ils ne comprennent pas. Que puis-je dire ? Les gens qui n'ont pas vécu la guerre ne peuvent pas savoir, je le comprends. C'est comme ça, j'accepte les idées différentes des miennes. Je suis reconnaissante pour l'aide apportée à mon pays et j'essaie de me concentrer sur le positif.
Moins anxieux que ses collègues, le cardiologue syrien Anas Yano n'envisage pas de quitter Iéna, cette ville de Thuringe où il occupe un poste de médecin-chef. En revanche, pas question d'aller travailler dans la campagne thuringeoise, là où l'extrême droite, ouvertement xénophobe, est la plus forte.
Pour être vraiment honnête, dans le contexte électoral actuel, pour moi, c'est beaucoup plus agréable de vivre dans une ville internationale comme Iéna plutôt qu'en zone rurale. En revanche, nous sommes nombreux à nous inquiéter de ce qui peut se passer pour les habitants et nos collègues d'origine étrangère sur place.
Les responsables politiques et représentants des services médicaux en Saxe et en Thuringe tentent pour l'instant de minimiser ces craintes. Officiellement, il n'y a encore aucune vague de départ de médecins et soignants étrangers liés à la situation politique. Ils appellent surtout à maintenir un climat de bienvenue, pas uniquement au sein des hôpitaux, mais au sein de la société en entier. Une mission qui s'annonce gigantesque.
Reportage de Delphine Nerbollier à Erfurt, en Thuringe, à écouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe. Rendez-vous à partir de 19h10, temps universel.
RFI, l'Europe à midi.
L'actualité européenne, c'est aussi la fermeté de Bruxelles face à la Hongrie. Le gouvernement de Viktor Orban refusait de payer l'amende de 200 millions d'euros infligée en juin dernier par la Cour de justice européenne. Amende parce que le pays avait fermé ses frontières aux migrants en 2015. La Cour de justice avait considéré qu'il s'agissait d'une violation sans précédent et très grave du droit européen. C'était la conclusion d'un long bras de fer judiciaire. Le Premier ministre hongrois avait, lui, jugé cette condamnation scandaleuse, inacceptable. Le gouvernement n'a pas versé un centime et la Commission a décidé d'attaquer la Hongrie au porte-monnaie, de se payer directement en retenant une partie des subventions européennes. Pierre Benazet.
Les services financiers et les services juridiques de la Commission européenne ont commencé ce lundi à éplucher tous les paiements destinés à la Hongrie. Le pays reçoit encore une grande partie des fonds et des subventions européennes, malgré le blocage de près de 20 milliards d'euros pour non-respect de l'état de droit. Les paiements à venir vont être passés au crible. La Commission va prélever 200 millions d'euros directement et la Hongrie ne pourra recevoir que ce qui reste. La procédure de récupération des amendes sera aussi appliquée à terme à l'astreinte d'un million d'euros par jour à laquelle la Hongrie a été condamnée en juin tant qu'elle ne se conforme pas à l'arrêt de la Cour. La Hongrie a fermé ses camps de transit pour les migrants à Ruske et Tompa, à sa frontière avec la Serbie. Mais en revanche, la Hongrie évite délibérément d'appliquer le droit de l'UE pour les migrants. Elle leur barre l'accès à la procédure de demande d'asile. Elle empêche les demandeurs d'asile de rester en Hongrie dans l'attente d'une décision définitive sur leur demande. Et elle éloigne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier vers leur pays de départ ou de transit sans respecter leurs droits. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Notre question d'environnement, après cette information publiée hier par l'UNICEF, 6 millions d'enfants affectés par le super typhon Yagi qui a ravagé l'Asie du Sud-Est ces derniers jours. La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes partout sur la planète nous rappelle une triste réalité. Igor Strauss, en cas de catastrophe, ce sont les enfants qui payent le plus lourd tribut. Les rapports se succèdent. La conclusion, elle est toujours la même. Les enfants sont les principales victimes du réchauffement climatique.
Oui, et parmi ces enfants, les enfants vulnérables sont encore plus affectés. Prenons le cas de la scolarisation. Selon un rapport de la Banque mondiale paru au début du mois, 400 millions d'élèves ont vu leur classe fermée en raison de conditions météorologiques extrêmes depuis 2022. Mais quand un enfant d'un pays riche perd en moyenne 2 à 3 jours d'école par an, un enfant d'un pays à faible revenu en perd en moyenne 18. Sans changement de trajectoire, les enfants d'un pays défavorisé comme le Brésil pourraient bientôt perdre jusqu'à 6 mois d'apprentissage par an en raison de canicules. Un constat qui ne surprend pas Camille Raymond-Desbosques, la directrice de l'ONG World Vision France.
Dans les cas où ces épisodes climatiques extrêmes sont vraiment très très violents, il va y avoir un déplacement des familles qui quittent ces zones qui sont devenues invivables. Il y a 110 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont déplacées à l'intérieur même de leur pays. Les enfants ne sont pas scolarisés. C'est un effet secondaire de ces épisodes climatiques qui effectivement a un impact très fort sur la scolarité des enfants.
Mais le réchauffement climatique n'affecte pas seulement la scolarité des enfants.
Non, l'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins, l'ensemble de leurs conditions de vie devient problématique. Selon World Vision, 99% des décès liés au réchauffement climatique surviennent dans des pays en voie de développement et 80% de ces décès concernent des enfants. Et parmi ces enfants, il y a encore une sous-catégorie, les plus vulnérables des vulnérables, les petites filles qu'aucune injustice n'épargne. Camille Romain-Desbosques.
Quand les familles sont dans une extrême fragilité et vulnérabilité, le mariage est vu comme une source de revenus dans les zones où la dot est encore pratiquée. Et je dirais, troisième peine qui vient s'ajouter à ça, dans un certain nombre d'endroits, le mariage est encore associé à la pratique de la mutilation génitale féminine. Nos équipes de World Vision l'ont constaté, notamment au Kenya, les mariages des petites filles et les excisions ont augmenté suite aux sécheresses à répétition qu'il y a eu dans le pays.
Selon l'indice des risques climatiques pour les enfants, près d'un milliard d'entre eux, soit la moitié des enfants de la planète, vivent dans un pays classé à très haut risque en raison des effets du changement climatique. Leur survie est donc directement menacée. Pour l'UNICEF, la crise climatique engendre une crise des droits de l'enfant tels qu'ils ont été définis dans la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies. Et malheureusement, cette crise, ou plutôt ces crises, Anne, ne font que commencer.
Merci Igor Strauss.
RFI Midi. Un monde de tech.
On va parler du groupe Meta qui lance les comptes adolescents sur Instagram. Dominique Dezonnet, cela fait des mois que Instagram est dans le collimateur des associations de protection de l'enfance et des autorités de régulation du numérique qui lui reprochent de ne pas en faire assez pour protéger les mineurs. C'est la raison pour laquelle le groupe annonce donc le lancement des comptes adolescents. Ils intègrent ces comptes une série de fonctionnalités obligatoires pour protéger automatiquement les mineurs de certains dangers qui les guettent sur les réseaux sociaux.
Oui, compte en mode privé, contact indésirable, contenu sensible bloqué et contrôle parental accru, ces fonctionnalités jusqu'à présent optionnelles sur Instagram sont devenues obligatoires pour les moins de 17 ans. Ces protections intégrées dans les comptes ados sont activées par défaut. Elles permettent par exemple de limiter les contacts indésirables, les contenus inappropriés ou pornographiques. Elles offrent également une supervision parentale pouvant aller jusqu'au blocage de l'utilisation du compte ado sur une période définie. Les notifications de nouveaux messages sont automatiquement coupées la nuit entre 22h et 7h. Et les restrictions concernant la messagerie Instagram, très utilisée par les ados, sont étendues. Les adultes ne peuvent plus entrer en contact avec un mineur s'ils ne se suivent pas mutuellement. Les parents peuvent également voir avec qui leur enfant a discuté au cours des 7 derniers jours. Pour autant, ils n'auront pas accès au contenu des messages qui ont été échangés.
Alors, est-ce que, afin d'échapper à ces nouvelles restrictions, un adolescent pourrait modifier, mentir sur son âge?
Effectivement, si un ado, par exemple, décide de changer sa date de naissance, mais alors, une fois le compte créé, il devra prouver son âge, soit en téléchargeant sa carte d'identité ou passer par un selfie vidéo, un dispositif de reconnaissance faciale qui est à peu près le même que celui qui permet de verrouiller son mobile, nous précise Capucine Tuffier, responsable de la protection de l'enfance chez Meta France, la maison mère Instagram.
Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que certains adolescents allaient essayer de contourner ces outils. Et donc, ce qui se passe pour les adolescents qui essayent de changer leur date de naissance, eh bien, ils se verront demander automatiquement de prouver leur âge, et là encore, deux moyens. D'abord, la carte d'identité, ou alors le selfie vidéo. On travaille avec une start-up britannique qui s'appelle Yoti, qui en fait va être capable d'estimer l'âge grâce à un selfie vidéo. Et pour vous donner un chiffre, on est à plus de 98% de taux de fiabilité. Donc ça reste des outils très efficaces.
Le problème, c'est que cette fonctionnalité du contrôle de l'âge par selfie n'est valable qu'une fois le compte ado créé. Et puis, il faut le dire, Dominique, de nombreux experts en sécurité informatique estiment que cette méthode n'est pas du tout aussi fiable qu'annoncée.
Oui, et notamment depuis que les hypertrucages vidéo générés par IA ont envahi les réseaux sociaux. Autre problème, un adolescent au moment de l'ouverture du compte peut toujours tricher. Instagram, ne vérifiant pas l'âge d'un nouvel inscrit en invoquant officiellement des raisons de confidentialité sur les données de ses jeunes utilisateurs, mais plus probablement pour engranger un maximum de nouveaux abonnés. La firme indique par ailleurs qu'elle disposerait d'un système d'intelligence artificielle qui serait capable de repérer certains signaux faibles sur les comptes des mineurs qui se font passer pour des adultes, comme la publication d'une invitation à un anniversaire pour fêter avec ses amis par exemple ses 14 ans et autres messages du même style qui ne correspondraient pas du tout au profil déclaré. Les comptes ados sont déployés depuis ce mardi aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Ils seront disponibles en France et dans les pays de l'Union européenne d'ici à la fin de l'année.
Notre monde de tech, signé Dominique Dezonnet. On va parler de football à présent. Après Lille mardi et le PSG hier, un match d'ailleurs qui s'est terminé par une victoire des Parisiens 1-0 face à Gironde qui a marqué contre son camp. Les deux autres clubs français engagés en Ligue des Champions entrent en lice aujourd'hui. Brest, le petit poussé de la compétition qui reçoit le Sturm Graz, champion d'Autriche en titre. Et Monaco, qui accueille le FC Barcelone, affiche de gala pour le retour très attendu de l'ASM au plus haut niveau européen. Thomas de Saint-Léger.
6 années sont passées, 6 années sans Ligue des Champions, une parenthèse bien longue dans l'histoire de l'AS Monaco et encore le dernier souvenir est celui d'une campagne bâclée, un match nul, 5 défaites avec quelques corrections au passage, indigne d'une équipe habituée à beaucoup mieux, 3 fois dans le dernier carré depuis 1998, finaliste même en 2004. Le club du Rocher n'est pas un géant européen, mais il a son statut de poil à gratter, de petit capable de grandes épopées et pourquoi pas cette année. Le parcours retour ne sera pas facile avec ce match d'entrée contre Barcelone, des déplacements sur le terrain d'Arsenal, de l'Inter Milan. Mais la nouvelle formule laissera des ouvertures à un groupe cohérent où se côtoient l'expérience des tauliers, Kerrer, Zakaria, Golovin et l'audace des jeunes pépites Akliouche, Benseguir, Camara, la vieille recette des bons crus du passé et un mélange déjà efficace cette année. En championnat, le départ est bon avec 3 victoires et 1 nul. Et puis, on se rappellera de ce match de pré-saison remporté 3-0 à Barcelone le mois dernier. Simple match amical, certes, mais les Catalans de Koundé, Yamal et compagnie en étaient ressortis les joues rougies et assez impressionnés.
Voilà, AS Monaco FC Barcelone, le match commence à 19h, temps universel.
Libreville, 104 FM.
Il est midi et 55 minutes dans la capitale gabonaise et dans un peu plus d'une demi-heure, toute l'actualité africaine avec vous Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
À la une d'Afrique Midi aujourd'hui.
La lettre d'Ali Bongo aux Gabonais, une lettre publiée hier soir par ses avocats. Une lettre ouverte en forme de défense de ses proches, sa femme et son fils, agrémentée d'un soupçon d'autocritique. Et puis au Mali, toujours aucun bilan officiel après la double attaque djihadiste qui a frappé mardi la capitale. Les autorités de transition ont reconnu quelques pertes, mais plusieurs sources évoquent quant à elles un bilan très lourd, plus de 70 morts.
À tout à l'heure Nicolas Sûr. Et en attendant le prochain journal dans 4 minutes sur RFI, je vous propose d'écouter un peu de musique, un extrait d'un morceau à découvrir en ce moment dans la playlist RFI. Voici Sofia Gabbana et son morceau Tasmania.
Watch out, babe, mama. No passing out the show, so you're a big mama. Am I good girl with you? Am I bad girl with me? Do you want my mix, man? I can give you everything I have. Am I good girl with you? Am I bad girl with me? Do you want my mix, man? I can give you everything I have. Biggie, 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 can you see? I don't see nothing, help me please. Boy llega como Biggie por la street, eh. Y escuchando rap, fumando hachís. Se escucha fuego cuando mucho pasa. Nuevo corazón, soy tu dosis papa. Mi número 8 siempre vuelve a empezar. Gracias al que dice que me quedará atrás. Oh mama, ya sé que estoy jodida, pero sin el rap ando me tiro de los pelos. Soy como Missy puesta con su chaleco. Me quitó la pena haciendo de todo menos. Doing you wrong. Por mi pena como la veré para tu show. Hoy viene bailando gente con tremendo flow. Aquí está lo malo, prendemos el calefón. What happened, mama? No pasa nada, digo fuck your drama. What happened, mama? No pasa nada, yo soy la big mama. What happened, mama? No pasa nada, digo fuck your drama. What happened, mama? No pasa nada, yo soy la big mama. Today you saw my fist. Today you saw my fist. Today you saw my fist.
Sofia Gabbana, la rappeuse argentine et son titre Tasmania dans la playlist RFI ce mois-ci. Et puis la musique sur notre antenne, c'est aussi un concert de la star Youssou N'Dour enregistré à la Station Afrique il y a quelques semaines à écouter ce soir à partir de 20h10 temps universel.
RFI Midi.
RFI, la sélection du mois.
Nina Ogot. Ayan.
Dans la nuit, tous les chats sont gris.
Menaheim Street Band et Roger.
Ain't somebody hold it up here. Na terça, quarta, quinta, sexta-feira.
Victony avec Asake.
toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Parce que la vie n'a pas de prix, la chaîne de l'espoir se bat depuis plus de 25 ans pour le droit à la santé des enfants de pays défavorisés. Notre pari sur l'avenir devient une réalité. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que les enfants sont notre avenir. Vous pouvez faire un leg ou transmettre une assurance vie à la chaîne de l'espoir. Ensemble, agissons pour que notre investissement pour la vie soit une victoire.
Demandez notre brochure sur chaînedelespoir.org ou au 01 44 12 66 80. 01 44 12 66 80. Prix d'un appel local.